Bon, merci d'avoir bravé le froid pour venir écouter ce cours. Aujourd'hui, c'est donc l'avant-dernier cours de cette série. Et je vais vous parler des propriétés de la phase supraconductrice, tout au moins de certaines de ses propriétés, parce que bien entendu, en préparant ce cours, je me suis aperçu que le sujet était quand même un peu trop ambitieux pour juste une heure. Et peut-être, d'ailleurs, je continuerai un peu au dernier cours. Il y aura à la fois un contenu, je dirais, présentation de résultats expérimentaux, donc phénoménologie de cette phase, un petit peu de théorie également, mais moins échevelée que la présentation de RVB la dernière fois. Aujourd'hui, on a deux séminaires, comme les autres fois. Le premier sera donné par Alain Sacuto, qui va nous parler de la nature de la phase supraconductrice, en particulier vue, sondée par diffusion inélastique de la lumière, diffusion Raman. Donc, vous voyez son titre ici. Et ce séminaire-là est très étroitement lié à des choses que je vais raconter dans la première heure. Donc, il y a un très fort couplage entre ce cours et ce séminaire. Et puis, le second séminaire sera donné par Jérôme Lesueur, qui va nous parler d'une mesure directe par effet de proximité, en quelque sorte, dans une jonction tunnel, des fluctuations supra dans la phase normale. Donc, c'est un sujet qui est en très fort couplage avec certains cours précédents, hein, mais qui, pour des raisons de calendrier, a été placé aujourd'hui. Voilà. Mais qui va renforcer, je pense, notre conviction, déjà étayée par les précédents exposés, que la phase pseudo-gap, le régime pseudo-gap, n'est pas attribuable à des fluctuations supra-fortes sur toute son étendue, des fluctuations de phase. Donc voilà le menu d'aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup entendu parler de l'état dit normal, c'est-à-dire non supraconducteur de ces matériaux, mais finalement, on a peu parlé de supraconductivité dans un cours consacré aux supraconducteurs. C'est quand même un peu paradoxal. Donc aujourd'hui, on va entrer dans ce domaine ici. Je vais toujours me focaliser principalement sur le côté dopé en trou. Et donc, on va pénétrer dans la phase supraconductrice et en présenter, disons, les grands aspects phénoménologiques. Alors, le principal message, en fait, de ce cours, c'est que au début de la recherche sur les cuprates, il y avait une sorte de croyance qui est que l'état non supraconducteur, l'état normal des cuprates est particulièrement anormal, justement, particulièrement inhabituel, en particulier l'état faiblement, le régime sous-dopé de l'état normal du côté dopé en trou, mais que finalement, quand on entrait dans la phase supraconductrice, on retrouvait des propriétés, je dirais, assez conventionnelles, similaires à celles qu'on attendrait de la théorie BCS. Alors, le message principal du cours d'aujourd'hui, qui évidemment est étayé par les 10 dernières années de recherche sur ce sujet, c'est qu'en fait, ça, c'est pas vraiment vrai. Et les anomalies, l'étrangeté de l'état normal se retrouvent en fait dans bon nombre de propriétés de l'état supraconducteur dans tout le régime sous-dopé, c'est-à-dire pour des dopages inférieurs au dopage optimal. Donc je voudrais essayer de vous convaincre de ça. Il y a un certain nombre de grandes choses qui sont vraies dans l'ensemble de ce dôme supraconducteur, qu'on soit sous-dopé au dopage optimal ou sur-dopé, mais il apparaît clairement quand même, je crois, et je pense que le séminaire d'Alain étayera encore plus ce point de vue, que dans le régime surdopé, on a effectivement quelque chose qui, hormis la symétrie D, ressemble à de plus en plus, au fur et à mesure qu'on dope, à une théorie de type couplage faible BCS, alors que quand on est dans le régime sous-dopé, on en est quand même très éloigné. Donc voilà, en un mot, disons le message d'aujourd'hui. Alors je vais commencer, ceci étant dit, par vous donner des éléments qui sont des éléments généraux, valables dans l'ensemble de la phase. Et bien sûr, le premier de ces éléments, c'est la question de la symétrie du paramètre d'ordre, qui a été au début des cuprates, et même pendant quelques années, une question centrale et fortement débattue. Donc, il est apparu tout de suite, très rapidement, parce que c'est une expérience très simple, qu'on avait affaire à de l'appariement singulier, hein, et non pas à de l'appariement triplet. Donc ça, il y a toutes sortes de manières de s'en rendre compte. La plus directe et la plus simple, c'est que quand on entre dans la phase supraconductrice, il y a une forte suppression du déplacement de Knight en RMN, qui est essentiellement une mesure de la susceptibilité à Q égale 0, si vous voulez, de la susceptibilité uniforme, ce qui indique bien que les électrons s'apparient dans un état S égale 0 qui ne répond plus au champ magnétique. D'accord ? Donc, l'appariement triplet, plus personne n'en parle, et il est clair que dans les cuprates, on a affaire à un appariement singulier. Une autre chose qui est apparue très rapidement, parce que là aussi, ce sont des expériences très standards qu'on fait tout de suite quand on a un supraconducteur, qui est l'expérience de quantification du flux, qui ont révélé qu'on avait bien appariement des électrons en paire de charge 2E. Hein. Donc, sans qu'on ait besoin, à ce stade, de se prononcer sur ce qui est la colle liant ces électrons entre eux, on a des paires, elles ont bien une charge 2E, et ça, ça se voit à cause de la quantification du flux dans des expériences de quantification. Donc, vous voyez que ceci nous laisse, puisque la fonction d'onde doit obéir à l'antisymétrie des fermions, nous laisse la possibilité d'avoir, puisqu'on a l'appariement singulier, donc on est antisymétrique dans le secteur du spin, ceci nous laisse la possibilité d'avoir un pairing de type S ou un pairing de type D. Hein, le pairing de type P est exclu parce que P avec du singulier, ça donnerait une fonction d'onde paire et ça ne marcherait pas. Donc, on a soit du pairing de type S, soit du pairing de type D, soit évidemment des pairings plus élevés, pourquoi pas G. Bon. Donc ça serait éventuellement possible également. Alors, le pairing de type S, évidemment, sa composante la plus simple, c'est une composante locale, hein, où les électrons s'apparient sur le même site en une paire singulière. Bon. Alors, ceci étant dit, il est assez clair qu'au moins dans tout le régime de faible dopage, dans ces matériaux, ce type de pairing est très, très fortement supprimé. Il est supprimé tout simplement par l'interaction de Coulomb répulsive forte, en réalité par l'énergie de transfert de charge entre les oxygènes et les cuivres, dont on a déjà beaucoup parlé, et qui fait qu'on n'a pas du tout envie de mettre deux électrons de spin opposés sur le même site. Donc ce pairing est certainement très fortement défavorisé. Alors ça, vous pouvez le rationaliser un petit peu dans une approche, disons, où vous traiteriez même le terme d'interaction répulsive en couplage faible, dans une approche de type BCS. Vous voyez tout de suite que s'il y a un pairing BCS delta de K, il y a un terme qui est l'énergie de Hartree, disons, qui vient de ce pairing. Et vous voyez que ce terme, eh bien, pour le minimiser, il faut que l'intégrale de cette fonction soit zéro sur la zone de Brillouin, hein, puisque c'est l'intégrale d'une fonction positive. EK, c'est la relation de dispersion habituelle des quasi-particules dans une théorie BCS. Donc il faut que ce terme s'intègre à zéro. Et donc vous voyez que ça impose que la fonction de paire doit changer de signe quelque part dans la zone de Brillouin. Donc on ne peut pas avoir un delta de K uniforme égal à une constante dans toute la zone, ce qui correspondrait à du pairing singulier sur site. Bon, alors ceci étant dit, ça n'exclut pas la symétrie S. Hein. Ça exclut, disons, ou ça supprime fortement la composante locale de la symétrie S, mais il y a d'autres harmoniques. Alors, si on regarde un petit peu ces harmoniques, donc voilà une classification. En réalité, évidemment, quand je parle de symétrie S, symétrie D, etc., on est dans un système qui a au mieux la symétrie tétragonale dans les matériaux tétragonaux, donc la symétrie du carré des plans CuO2. Hein, donc, il faut donner à ces différentes représentations leur nom. Leur nom canonique, donc en symétrie S, c'est en fait la symétrie A, la représentation A1G, puis il y a différents éléments de symétrie D, différentes représentations, la B1G qui correspond à une symétrie de type X2-Y2, puis la B2G qui correspond à une symétrie XY. Pour être un petit peu plus concret, voilà les harmoniques. Donc ça, c'est la symétrie S, donc ou A1G. Vous avez la composante locale dont j'ai expliqué tout à l'heure qu'elle était fortement supprimée. L'harmonique suivante, ça serait cos kx plus cos ky avec une certaine amplitude. Celle-là, elle est permise. Vous voyez qu'elle s'intègre à zéro dans la zone de Brillouin, par exemple. éventuellement des harmoniques d'ordre supérieur. Et puis en symétrie D, ben, on a la symétrie x2 moins y2 qui en fait est cos kx moins cos ky pour sa première harmonique, mais il peut y avoir des harmoniques d'ordre supérieur également, j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs. Et puis en symétrie xy ou b de g, on aurait un terme comme ça, éventuellement des harmoniques d'ordre supérieur. Hein? Donc voilà un petit peu les différents candidats, je dirais, les plus évidents. Et vous voyez que tous ces termes, à l'exception du premier si delta 0s est non nul, tous ces termes présentent des signes qui changent dans la zone de Brillouin. Alors j'ai fait des petits dessins ici pour essayer de vous montrer ça. Donc prenons par exemple celui-là, qui, comme vous l'avez peut-être déjà compris, va être celui qui gagne à la fin, semble-t-il, dans ces matériaux. Eh bien, vous voyez que cette harmonique ici, elle est nulle sur les deux diagonales de la zone de Brillouin. Ça, c'est la zone de Brillouin, 0, 0, pi, pi, ici. Donc elle est nulle sur ces deux diagonales. Et comme on l'a vu dans les cours précédents, la surface de Fermi, typiquement des cuprates, c'est quelque chose, au moins un dopage pas trop fort, c'est quelque chose qui est une surface de Fermi ouverte, ici, de type trou centré sur pipi. Et donc, vous voyez que cette surface de Fermi intersecte ces lignes dites lignes nodales, parce que le gap s'annule, et donc il y a des nœuds sur ces lignes. Et dans ce cas-là, les points nodaux sont, selon les directions diagonales, proches de pi sur 2, ce sont ces quatre points-là. Alors vous voyez que cette symétrie x2 moins y2, elle brise la symétrie de rotation du carré. Hein, c'est une harmonique d'ordre supérieur, donc qui n'est pas L égale 0, donc elle brise l'invariance par rotation, alors que celle-là, elle respecte l'invariance CK2V de groupe de symétrie du carré. Donc si on était dans ce cas-là et que delta 0S était nul, eh bien on aurait aussi des points nodaux, hein, puisque le gap s'annule sur ces lignes bleues, mais ces points nodaux seraient déplacés par rapport aux directions diagonales. Et puis pour ce qui est de ce terme-là, qui brise également la symétrie C4, eh bien on aurait des points nodaux qui cette fois seraient près des points pi 0 et 0 pi. Bon, alors très clairement, si on est capable de faire une mesure qui nous donne l'évolution du gap le long de la surface de Fermi, c'est-à-dire si on est capable de suivre l'amplitude du gap quand on se déplace le long de cette ligne verte, eh bien, on a déjà un très fort indice. Hein. Ce type d'expérience n'est pas une expérience qui est véritablement sensible directement à la symétrie du problème, puisqu'on va tester, je dirais, l'amplitude de la fonction de gap et pas sa phase, pas son signe. Donc, ce qui a vraiment mis un point final, je dirais, était une expérience déterminante pour ces questions de symétrie du paramètre d'ordre, ce sont des expériences qui sont sensibles à la phase. Bon, mais quand même, il y a toutes sortes d'expériences qui nous renseignent et nous donnent un indice. Alors, quand même, encore un petit mot sur cette question des points nodaux. Vous voyez que si j'ai une symétrie D, là c'est certain, j'ai des lignes de zéro et j'ai des points nodaux, ce qui veut dire que si je regarde la dispersion de l'énergie des quasi-particules, c'est-à-dire des excitations de type pair-breaking, de type Bogoliubov, qui existent dans le supraconducteur, eh bien, donné par cette expression, vous voyez que cette énergie s'annule à ces points nodaux que je montrais tout à l'heure, qui sont ici. Hein. Cette énergie s'annule ici, et la dispersion au voisinage d'un de ces points, si je linéarise le spectre au voisinage d'un de ces points, eh bien, c'est essentiellement un cône de Dirac. C'est une dispersion linéaire avec deux vitesses. Une vitesse qui est la vitesse perpendiculaire à la surface de Fermi, à la ligne verte, hein, qu'on appelle VF traditionnellement, et puis une vitesse qui est une vitesse tangentielle à la surface de Fermi au point nodal, qui n'est autre que la dérivée angulaire de la fonction de gap, hein, et qu'on appelle V delta. Alors retenez bien ces deux nombres, parce qu'on va en entendre parler dans toute cette heure. VF et V delta, et surtout V delta, va jouer un rôle important dans toute la suite de ce cours. Et donc la dispersion, c'est quelque chose comme ça. Hein. Donc vous voyez, si je regarde selon la direction tangentielle, par exemple, j'ai une dispersion qui est valeur absolue de delta k perpendiculaire, hein, donc une dispersion linéaire à la directe. Bien entendu, une telle dispersion vous donne une densité d'état qui va s'annuler au point nodo, hein, puisque là, le gap s'annule, et cette densité d'état est linéaire en énergie, à basse énergie. Hein. si vous regardez la densité d'état complète qui correspondrait non pas à cette forme simplifiée près des nœuds, mais à cette forme-là, eh bien, c'est quelque chose qui est linéaire en énergie à basse énergie, puis qui a des pics, hein, comme ceci, qui correspondent au bord du gap. Je voudrais contraster ça avec le cas BCS S-Wave habituel, où on a une densité d'état pour les excitations de quasi-particules qui est nulle à l'intérieur du gap, et puis deux fameuses singularités ici, hein, en bord de gap. Ici, on a des excitations de basse énergie dans l'état supra, hein, des excitations de gap non nul, et ça, de gap nul, et ça, ça va nous donner une physique spécifique de ces supras sans gap, en quelque sorte, sur lesquels je vais beaucoup m'étendre dans ce cours. Bien, alors donc revenons à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même des expériences qui, bien que n'étant pas sensibles à la phase, nous donnent des indices pour préférer une des différentes symétries que j'ai présentées jusqu'à maintenant. Alors, Henri Alloul en a présenté une dans son séminaire sur la RMN. Vous voyez que le temps de relaxation 1 sur T1 obéit sur plusieurs décades une loi 1 sur T1 proportionnelle à T cube qui clairement est une loi qui signale l'existence d'excitation sans gap. Hein, si on a un gap S-wave sur une plage finie en énergie, on aurait une loi activée pour cette dépendance de 1 sur T1. Donc l'existence d'une loi de puissance nous dit qu'on va avoir des nœuds dans le gap. Et en fait, vous pouvez vous convaincre facilement que ce T cube est parfaitement compatible avec la densité d'état linéaire dont je viens de parler. Alors, un petit argument très rapide pour le montrer. Si vous avez une densité d'état linéaire en énergie, hein, ça veut dire que si vous prenez par transformé de Fourier, si vous regardez le comportement temporel de la fonction de Green, ça va être 1 sur taux 2, parce que la transformée de Fourier de 1 sur taux 2 se comporte à basse fréquence comme oméga, des taux sur taux 2, ça fait oméga. Et donc, comme la fonction de réponse qu'on regarde en RMN, c'est le carré d'une fonction de Green, disons en gros, c'est une fonction à deux particules, donc c'est le carré d'une fonction à une particule, donc vous voyez que ça nous fait 1 sur taux 4. Hein, et quand vous reprenez la transformée de Fourier de 1 sur taux 4, ben vous trouvez oméga cube, et ce oméga cube n'est autre que ce T cube. Donc voilà, dit très vite et avec les mains, pourquoi le T-cube est bien révélateur d'une densité d'état linéaire. Il va sans dire que pour faire ça un peu plus proprement, il faut reprendre les bonnes expressions de la RMN dans l'état supra et faire les calculs, mais en gros, on trouve ça. Bon. Maintenant, si vous regardez le spectre STM, les premiers spectres STM qui ont été obtenus sur les cuprates, et ça, c'est plutôt le séminaire de Christophe Berthaud, eh bien, vous voyez que... alors, il y a du bruit hein, à bas voltage ici, évidemment, il y en a. De même qu'ici, si vous êtes vraiment, vraiment pointilleux, vous allez me dire qu'il y a une déviation par rapport au T-cube à très basse température. Il y a déjà des effets d'impureté, hein, c'est tout à fait clair. C'est pour ça que ces expériences n'ont pas complètement convaincu tout le monde avant qu'il y ait des expériences sensibles à la phase. Mais enfin, quand même ici, on a comparé, disons, un espèce de fit linéaire de la conductance tunnel par rapport à un fit par une théorie BCS S-Wave qui aurait un gap franc, vous voyez que quand même il est difficile de contester que la caractéristique linéaire marche un peu mieux, et ça, ce n'est pas la plus belle caractéristique IV qu'on soit capable de donner sur les cuprates. Donc ça, c'est encore un autre indice, on va dire. Alors, une chose qui a fait évidemment beaucoup progresser ce sujet, dans l'état normal comme dans l'état supra, ce sont les expériences de photoémission résolues en angle. Dans les expériences de photoémission résolues en angle, on peut suivre l'évolution du gap pour les excitations à une particule de manière résolue en impulsion. Alors ça, évidemment, c'est très beau. On peut se déplacer le long de la surface de Fermi depuis les régions au voisinage de pi 0 jusqu'au voisinage des régions diagonales. C'est exactement ce qui est représenté ici. Ça, c'est le quart de la zone de Brillouin. Pi 0, disons ici, pi sur 2, pi sur 2. Et ceci vous montre la dépendance en impulsion ou en angle sur la surface de Fermi ici, quand vous vous déplacez depuis les régions proches de pi 0 qui sont là, jusqu'aux régions proches de la diagonale qui sont ici. Hein, et ce qui est mesuré ici, la manière dont cette échelle d'énergie est extraite, c'est que quand on entre dans l'état supraconducteur, et en fait même au-dessus, comme vous l'avez vu dans l'état pseudo-gap, le point d'inflexion des spectres de photoémission est décalé par rapport au zéro d'énergie. Le zéro d'énergie, c'est une référence qui est l'énergie de Fermi qu'on connaît parce qu'on peut faire une mesure sur un métal simple. Et c'est ce décalage entre le zéro d'énergie et le point d'inflexion du spectre qui est identifié comme une estimation du gap. Et vous voyez que cette échelle d'énergie s'annule exactement sur la diagonale. Donc clairement, ça, c'est quelque chose qui favorise, qui est un indice qu'on a un pairing de type essentiellement cos kx moins cos ky et éventuellement des harmoniques supérieures. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon. Donc tout ça, ce sont des mesures qui sont des indices. Ça, c'est une mesure directe. C'est plus qu'un indice, c'est quand même une mesure directe de l'amplitude du gap. Mais ce ne sont pas des mesures véritablement qui testent directement la symétrie au sens où ce seraient des mesures sensibles à la phase. Vers le milieu, fin des années 90, il y a eu une superbe mesure, en fait deux types de mesures, qui ont établi par des mesures sensibles à la phase qu'on avait affaire à un pairing D. Et alors, malheureusement, c'est un des sujets sur lesquels j'ai un peu de regret, c'est que je ne vais pas avoir le temps de vous décrire en détail, de manière à vous faire comprendre comment ça marche vraiment, ces mesures sensibles à la phase, parce que c'est assez compliqué quand même. C'est assez long et compliqué. Il me faudrait au moins 20 minutes ou une demi-heure pour entrer dans les détails de ces explications. Mais je peux vous donner, et bon, je n'ai pas vraiment le temps de le faire parce que je veux vous parler surtout des excitations dans l'état supra aujourd'hui. Mais je vais quand même vous donner, dans cet unique transparent, les idées, disons, enfin l'idée. Donc l'idée, c'est en réalité de fabriquer, elle vient d'une proposition théorique. D'une prédiction théorique qui est due en particulier à Geschenbein et Larkin, qui est une proposition théorique quand même assez cannulée, qui consiste à dire on va faire un ensemble de jonctions Josephson qui va être disposé de manière telle que on a un nombre impair de changements du signe du courant critique. Vous savez qu'à travers une jonction Josephson, le courant Josephson, c'est le produit d'un courant critique, IC, par le sinus d'une phase, et cette phase fait intervenir la différence de phase entre les deux supra plus l'intégrale du potentiel vecteur à la jonction, quelque chose comme ça. Et ces expériences, en fait, ce sont des expériences qui testent le signe, qui utilisent comme sonde le signe du courant critique à travers la jonction. Et ce dont Geschenbein et Larkin se sont aperçus, c'est que si j'avais une jonction qu'on appelle de type pi, c'est-à-dire un ensemble, on a un anneau, disons, avec plusieurs jonctions, hein, et si j'ai un nombre impair de changements de signe de ce courant critique, alors il doit apparaître au centre de ce dispositif un quantum de flux qui est la moitié du quantum de flux phi zéro. Voilà l'idée de Geschenbein et Larkin. Et ça, c'est caractéristique d'un supra-D. Et croyez-le ou non, ce type... Alors évidemment, c'est délicat parce qu'il faut fabriquer des jonctions où on sache exactement l'orientation du paramètre d'ordre dans les différentes zones. Et donc, ceci a été réalisé en faisant croître un supra sur un substrat dont les axes cristallins sont connus, du strontium titanate en l'occurrence. Selon une géométrie de ce type, donc vous voyez qu'il y a plusieurs jonctions ici, et ces gens ont observé effectivement l'apparition d'un demi-quantum de flux au centre. Je profite également pour dire que ceci a été l'occasion du développement d'instrumentations nouvelles, en particulier et de cet instrument-là. Ah, je pensais que j'avais fait un transparent, bon, j'en ai pas fait dommage. Un microscope à squid, qui permet de promener un petit squid et d'avoir essentiellement une mesure du quantum de flux avec une extraordinaire résolution spatiale. Voilà, encore une fois, c'est un transparent un peu superficiel. Je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans les détails, et je ne suis pas non plus un spécialiste de ce sujet, mais il y a une très belle revue de Tsui et Kirkley, Tsui étant un des co-auteurs de cette manip assez extraordinaire, dans Reviews of Modern Physics, à laquelle vous pouvez vous reporter, et où un grand nombre de détails de ce type d'expérience sensible à la phase sont exposés. Bien, Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la symétrie du paramètre d'ordre. Et donc la conclusion de cette première partie, c'est que on a une symétrie D et essentiellement une composante dx2 moins y2 du paramètre d'ordre. Alors maintenant, on va entrer un petit peu plus dans la physique de cette phase. Je vais vous parler un petit peu de la densité superfluide et de d'une quantité qui est très étroitement reliée, qui est la rigidité de phase, phase stiffness en anglais, et ensuite je vais vous parler de l'effet des quasi-particules nodales sur les propriétés de ce supraconducteur. Bien, alors, la densité superfluide, c'est quelque chose qui peut être mesuré par une mesure de la longueur de pénétration de London, hein, qui est donc la longueur de pénétration sur laquelle pénètre un champ magnétique dans l'échantillon. Il y a différentes techniques pour mesurer ça, par exemple la précession du spin des muons. Et très tôt dans le domaine, donc cette longueur de pénétration, lambda moins 2, hein, où lambda est la longueur de London, pour un champ pour une pénétration perpendiculaire au plan AB, vous renseigne sur la densité superfluide du matériau. Très tôt dans ce domaine, les gens se sont Uemura, pour le nommer, s'est aperçu que cette densité superfluide, dans le régime sous-dopé, semblait, disons, en gros, être proportionnelle à TC. Alors vous allez voir plus tard que ce n'est peut-être pas exactement une proportionnalité, mais en tout cas, TC, c'est quelque chose qui s'écroule quand on sous-dope, hein, et la densité superfluide s'écroule avec elle. Voilà, ça c'est vrai. Et donc, vous voyez que ça veut dire qu'à bas dopage, on est en présence d'un superfluide qui a une faible densité de paire. Hein. Là, je parle de la densité superfluide à température nulle. Hein. Ce n'est pas un effet de température, c'est vraiment un effet de suppression du nombre de porteurs. Donc, de même qu'on a vu dans les expériences de conductivité optique que le poids du pic de Drude, c'est-à-dire les porteurs disponibles pour le transport électrique dans l'état normal, était proportionnel au nombre de trous, en gros, et bien de même, la densité superfluide, c'est-à-dire les fractions d'électrons qui participent au pairing supraconducteur, est aussi, en gros, disons, proportionnel au nombre de trous. TC étant lui-même proportionnel, en gros, au nombre de trous. Donc vous voyez que c'est un drôle de superfluide, et ce lien entre la densité superfluide et la conductivité optique dans l'état normal, je dirais, est relativement attendu, puisque qu'est-ce qui se passe quand on passe de l'état normal à l'état supraconducteur du point de vue de la conductivité optique? Eh bien, on a apparition dans la conductivité optique d'un pic delta, hein, et en fait, ce pic delta a un poids qui est réminiscent de celui du pic de Drude, donc du pic de basse fréquence de la conductivité optique dans l'état normal. Donc, ceci a une conséquence très importante, qui est que non seulement on a une faible fraction des électrons qui participent à l'appariement, mais en plus, la rigidité de phase est très faible. C'est-à-dire qu'il est facile d'introduire des fluctuations de phase dans ce système. Alors, en effet, la densité superfluide et la rigidité de phase sont directement proportionnelles l'une à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intuitif. Ça vient du fait que, vous voyez, le coût d'énergie dans une approche à la Ginzburg-Landau pour une déformation de phase, c'est quelque chose qui va être cette rigidité de phase fois l'intégrale du gradient de la phase au carré. Alors ici, cette phase s'appelle θ. Plus tard, dans mes transparents, elle s'appellera φ, mais enfin, bon, peu importe. C'est la phase du paramètre d'ordre supraconducteur. Et ce coût, c'est quoi? Bien, c'est en fait, en gros, l'énergie cinétique des porteurs. Et donc, vous voyez que si je calcule l'énergie cinétique des paires, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est 1,5 de m, ou m étoile, à peu près 2m, vs carré, où vs, c'est la vitesse superfluide, donc qui est proportionnelle au gradient de la phase, fois, évidemment, la densité d'électrons appariés. Et donc, vous voyez que ce 1,5 de m vs carré vous donne 1,5 de gradient θ carré ici, à des facteurs m près, et puis l'autre terme vous dit que ks doit être proportionnel à la densité superfluide. Donc, qui dit faible densité superfluide vous dit que la rigidité de phase doit être faible. Et ça, c'est une observation qui a été particulièrement souligné par Emerick Iverson dans cet article de 1995, qui souligne le fait que ces supras, dans le régime sous-dopé au moins, sont donc particulièrement susceptibles aux fluctuations de phase, d'où l'idée que le régime pseudo-gap au-dessus de TC pourrait être un régime où les paires existent, mais où la cohérence de phase soit supprimée par ces fluctuations faciles. Idée dont on a vu, et dont on continuera à voir cet après-midi, qu'elle n'est probablement pas correcte, au moins jusqu'à T étoile, mais il est exact néanmoins, comme on l'a vu par les Ernst, comme on le verra aujourd'hui avec les expériences que nous présenterons Jérôme Le Sueur, qu'il y a effectivement quand même un régime fluctuatif au-dessus de TC qui est assez étendu. Et tout ça vient du fait que cette rigidité de phase est beaucoup plus faible que dans un supraconducteur conventionnel. Alors évidemment, tout ça, le fait que on ait seulement une fraction X des électrons qui s'apparient, qu'on ait une rigidité de phase faible, etc., tout ça vient du fait qu'on est en train de regarder un supraconducteur proche de l'isolant de Mott, qui est un isolant de Mott faiblement dopé. Donc c'est bien quand même une manifestation du fait que même dans l'état supra, le fait qu'on ait un système proche de l'isolant de Mott continue à se manifester. Alors ça, c'est quelque chose qui est bien en accord aussi, facile à comprendre, dans les approches du type boson esclave, RVB ou autre, que je décrivais la dernière fois, puisque de même que le poids du pic de Drude est proportionnel à X, également la densité superfluide est proportionnelle à X, et dans le jargon des bosons esclaves, tout ça est contrôlé par l'amplitude de condensation du boson. Bon, donc un supraconducteur relativement fragile par rapport aux fluctuations de phase et impliquant seulement une fraction des électrons. Alors maintenant, je vais parler d'un troisième volet du cours d'aujourd'hui, qui est l'importance des excitations de basse énergie. Donc, on a vu que dans ces supra-D, avec des lignes de zéro du paramètre d'ordre, on a des points nodaux qui correspondent à des excitations d'énergie nulle. Et ceci, évidemment, distingue ce supraconducteur d'un supraconducteur S-Wave BCS traditionnel et a des conséquences qui sont assez intéressantes et dont je vais parler maintenant. Alors en fait, on a deux types d'excitations, enfin qui sont continuellement connectées l'une à l'autre. Près des points nodaux, on a des excitations sans gap. Loin des points nodaux, eh bien, on a des excitations qui sont des excitations pair breaking traditionnelles, je dirais, correspondent à des excitations d'énergie finie. Pour les exciter, il faut fournir une énergie finie au système qui est liée au gap. Alors je vais en fait d'abord vous parler un petit peu de celle-là, vous montrer l'imagerie de ces excitations-là, parce qu'elles présentent des caractéristiques particulières dans ces régimes sous-dopés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va trouver au voisinage des points antinodaux, et en fait sur toute la surface de Fermi, loin des nœuds. Et puis ça, c'est spécifiquement les excitations sans gap qui apparaissent aux points nodaux, dont je parlerai un peu après. Alors, est-ce qu'on voit ces excitations, ces pics d'excitation correspondant au mode de bord de gap pair breaking? Alors effectivement, on les voit. Vous vous souvenez que dans l'état normal, lorsqu'on regarde l'état normal sous-dopé, eh bien près des régions antinodales, près de π0, on ne voyait pas de quasi-particules, au sens des quasi-particules de Landau. Si vous regardez le spectre de photoémission en rouge ici, qui est pour bismuth de 212 au-dessus de TC, juste au-dessus de TC, eh bien vous avez ici une forme du spectre d'Arpès où il n'y a manifestement aucun pic. Tout ça est très mou et très large, il n'y a pas de pic de quasi-particules. Et puis quand on passe en dessous de TC, alors là c'est significativement en dessous de TC, mais en fait on voit ce pic apparaître dès qu'on passe en dessous de TC, eh bien, vous voyez qu'il y a un changement de cette forme avec apparition d'un pic qui, dans ce cas-là, est relativement bien défini, même on peut dire bien défini. Et le gap, vous le voyez ici, le gap, il est décalé par rapport au zéro d'énergie. Donc ça, c'est la fameuse échelle delta que je dessinais tout à l'heure. Donc, ceci a fait couler pas mal d'encre. C'est le fait que la rigidité, l'apparition d'une cohérence de phase fait réémerger une quasi-particule dans l'état supra, alors que dans l'état normal, cette quasi-particule était détruite, détruite par la proximité de l'isolant de Mott. Bon, d'où, alors cette idée, elle semble, disons, justifier le fait que finalement, une fois qu'on a pénétré dans l'état supraconducteur, une fois qu'on a rigidifié la phase, eh bien, on retrouve une description relativement plus banale, hein, où on n'a pas cette grande sélectivité dans l'espace des moments, mais on a restauration de quasi-particules assez standards en bord de gap. Alors vous allez voir dans le transparent suivant qu'en fait ça c'est pas aussi simple que ça, c'est pas si vrai que ça, parce que ces quasi-particules antinodales dans l'état supra, elles sont bien observées quand on n'est pas trop loin du dopage optimal, mais quand on commence à être vraiment à faible dopage, elles deviennent particulièrement fragiles et surtout leur poids spectral est particulièrement faible. Et donc de nouveau, ces quasi-particules antinodales se souviennent de la proximité de l'isolant de Mott. Et elles ont quand même du mal à exister, même dans l'état supra. Alors je vais essayer de vous montrer ça ici. Donc ici, c'est pour un dopage donné, je pense relativement proche du dopage optimal, oui, il est même légèrement surdopé. Et donc vous voyez, 140K bien au-dessus de TC, cette forme devrait être très molle, hein, sans avoir une bonne quasi-particule. On baisse la température et puis tout à coup, quand on arrive à la température critique, eh bien, on a l'apparition du pic et puis à basse température, on a cette belle forme ici avec un pic et même un creux et puis de nouveau, on retrouve le continuum là. Cette forme a été quelquefois appelée la forme peak deep hump qui est caractéristique de l'entrée dans la phase supra. Donc, vous voyez que cet échantillon-là, il a effectivement un beau pic antinodal. Tous ces spectres ARPES sont pris dans la région antinodale. C'est un article de Ding de 2001. Mais si vous regardez ça pour différents dopages, donc probablement ce spectre ici correspondrait à celui-là, je pense, le spectre noir avec cette belle forme. Si maintenant vous sous-dopez, hein, donc ça c'est des composés surdopés, le dopage optimal est ici, et puis ça c'est des composés fortement sous-dopés, eh bien vous voyez que quand on sous-dope, ce pic antinodal, tout ça c'est des spectres de basse température, hein, ce pic antinodal, il devient assez étique. Donc, clairement, il s'élargit probablement un peu, il commence à se perdre dans cette masse ici, mais il existe toujours dans ces échantillons, mais son poids spectral est clairement très fortement supprimé. Alors, en fait, ça, c'est une question, donc l'existence ou non de quasi-particules antinodales dans l'état fortement sous-dopé, c'est une des questions assez controversées, peut-être même encore aujourd'hui, sur les cuprates. C'est une des questions sur lesquelles les controverses ne viennent pas uniquement de questions d'interprétation des données, mais même de différences entre les données expérimentales dans différents groupes. Pourquoi ? Parce que probablement, ces quasi-particules sont suffisamment fragiles pour être très sensibles au désordre, par exemple, ou à la qualité de l'échantillon. Et donc, on les voit bien, enfin, on les voit, malgré leur faible poids spectral, quand on a des très bons échantillons, et on ne les voit pas très bien. Quand on a des mauvais échantillons, elles peuvent même être complètement supprimées. On retrouve ici l'idée qu'on a déjà évoquée plusieurs fois, qui est que les régions antinodales sont sensibles à la physique de courte portée dans l'espace réel, et en particulier au désordre. Alors, voilà, à partir de ces données, dans le même article, un effort pour extraire le poids spectral relatif du pic par rapport au reste. Ce n'est pas quelque chose qui est si facile à faire que ça en photoémission parce qu'on n'a pas vraiment de référence absolue du poids spectral. Mais enfin, on peut essayer. Et ces auteurs vous donnent une dépendance du poids spectral des quasi-particules antinodales dans l'état supra qui, vous voyez, s'écroule avec le sous-dopage. Donc, il est très réminiscent de la dépendance du poids des quasi-particules dans une approche de type Bogman-Reiss dans l'état normal. Et ça, c'est un dessin, c'est une représentation de la valeur de l'énergie mesurée par la distance du point d'inflexion, hein, du leading edge, du spectre, en fonction du dopage. Vous voyez que ça, c'est une énergie qui croît quand on sous-dope. Bon, alors comme je le disais, l'existence de ces quasi-particules antinodales, question controversée. Voilà par exemple un article qui sont ces belles expériences d'interférence de quasi-particules en STM. On prend des spectres STM et on fait des convolutions pour voir les interférences des quasi-particules. Et ce qui est représenté ici, c'est dans la demi-zone de Lecarbe, la zone de Brillouin, où on voit dans ces expériences d'interférence de quasi-particules, dont Christophe Berthaud a un peu parlé, la présence de quasi-particules. Et vous voyez que la conclusion de ces auteurs, c'est qu'en fait, ces quasi-particules sont présentes sur un arc de ce type qui ressemble à l'arc de Fermi dans l'état normal, mais que quand cet arc commence à toucher la zone de Brillouin antiferromagnétique, donc qui partage la zone de Brillouin selon cette ligne, eh bien, au-delà de cette région, on ne voit plus de telles quasi-particules. Alors, on ne les voit pas non plus ici, mais ça, c'est pour d'autres raisons. C'est pour des raisons de sensibilité de ce type de mesure. En fait, les quasi-particules, on les voit bien, relativement bien en photoémission, si on n'est pas trop près des nœuds, au moins. Donc cet article-là était plutôt un article qui consistait à dire ben, en fait, qu'il y a une suppression complète des quasi-particules antinodales dans l'état supra. En fait, cet article a été repris et critiqué par les gens de photoémission qui vous montrent, alors je vous présente un peu l'état de l'art, hein, vous en faites ce que vous en voulez, qui vous montre que, voilà, sur plusieurs échantillons de Bisco, je pense, pour différents dopages, des spectres, quand on se déplace de la région nodale vers la région antinodale, alors vous voyez, dans la région nodale, on a toujours un beau pic, et dans la région antinodale, quand on n'est pas trop sous-dopé, on a un beau pic également, mais quand on est fortement sous-dopé, ce pic existe, mais il est assez pris dans le continuum, il s'élargit, hein, et puis aussi son poids spectral diminue. Donc ça, c'est bien compatible avec les manips de Ding et Campuzano que je montrais tout à l'heure. Mais ce pic est là. Il est petit, mais il est là. Et en fait, ce que ces gens montrent, c'est que quand on fait la convolution des deux fonctions spectrales pour faire quelque chose qui ressemblerait aux expériences d'interférence de quasi-particules en STM, eh bien, à cause du faible poids spectral des pics et de leur largeur ici, eh bien, on perd la trace des interférences de quasi-particules dans cette région, bien que dans le spectre à une particule, ces pics soient présents. Donc l'interprétation de cet article, c'est de dire, en fait, ces quasi-particules antinodales sont bien toujours là, elles ont un poids spectral fortement supprimé, comme on l'a vu dans les transparents précédents, et si on ne les voit pas dans les expériences STM, c'est parce que ce poids spectral est trop faible et leur largeur est trop grande. Parce qu'on mesure une convolution de fonctions de Green et pas juste une fonction à une particule comme une expérience d'Arpès. Donc ça, je crois que ça décrit à peu près l'état de l'art, tout au moins tel que je le connais. Selon moi, disons, les conclusions temporaires au moins sur cette question des quasi-particules antinodales, c'est qu'il me semble qu'il est établi qu'au moins pour une large gamme de dopages, les excitations type quasi-particules existent tout le long de la surface de Fermi dans l'état supraconducteur, qu'aux antineux, il est clair qu'il y a une forte suppression du poids spectral, de nouveau un souvenir de la physique de Mott, et que la durée de vie de ces quasi-particules antinodales est probablement aussi fortement raccourcie, et que tout ça, c'est une manifestation donc, de la proximité de l'isolant de Mott dans l'état supra. Voilà. Je pense que ces quasi-particules sont effectivement là, et on en entendra parler plus certainement dans le séminaire d'Alain, puisque ça joue un rôle important dans l'interprétation des manips Raman. Bien, alors maintenant, on a parlé des quasi-particules antinodales, celles qui sont gapées. Je vais vous parler maintenant des conséquences de l'existence de modes d'énergie nulle, donc de quasi-particules au sens de l'état normal, quasiment, hein, dans l'état supraconducteur au voisinage des nœuds. Alors, pour faire ça, je vais m'appuyer sur plusieurs articles. Il y a un assez bel article, vraiment, de Yoffe et Milis qui donne un peu la théorie de basse énergie effective de ces quasi-particules nodales. Ces quasi-particules nodales ont été considérées avant, dans différents contextes, pour leurs conséquences sur la densité suprafluide et la profondeur de pénétration par Wen et Li et Wen. Et puis, également, dans notre travail sur l'effet Raman, sur la diffusion Raman avec avec Alain, Mathieu Le Tacon et ses collaborateurs. Donc j'utilise un peu tout ça, mais le langage que je vais utiliser est pas mal inspiré de cet article-là. Bon, alors quelles sont les grandes caractéristiques? Alors vous allez voir, hein, ça va vous demander un petit peu de patience, mais vous allez voir pourquoi je mets l'accent sur ces quantités, j'espère. Donc quelles sont les quantités caractéristiques qui caractérisent ces quasi-particules nodales? Alors on l'a vu tout à l'heure, il y a déjà leur dispersion. Hein. Donc il y a deux vitesses, une vitesse perpendiculaire à la surface de Fermi, VF, et une vitesse parallèle à la surface de Fermi, qui n'est d'autre que la pente angulaire du gap, c'est-à-dire c'est d delta des phi au point nodal. Donc c'est un cône de Dirac anisotrope avec deux vitesses. Bon, ça c'est donc leur dispersion. Il y a évidemment leur poids spectral par rapport à l'ensemble des excitations à une particule possible, qui peuvent être des excitations très incohérentes. Ça c'est quelque chose qui j'appelle, disons, assez naturellement Z nodal. Et puis vous allez voir également qu'il y a une quantité qui régit le couplage de ces quasi-particules à un champ électromagnétique. Alors, on peut voir ce couplage soit comme une sorte de charge effective de ces quasi-particules, soit comme un paramètre de Landau qui vient renormaliser le couplage de ces quasi-particules au champ électromagnétique. Alors, en fait, il y a un petit dictionnaire ici. Yoffe et Millis ont tendance à parler de charge effective et ils appellent ce nombre ZE. Ce n'est pas un poids de quasi-particules, hein, c'est réellement plutôt un paramètre de Landau qui couple ces quasi-particules au champ électromagnétique, un vertex, si vous voulez. Li et Wen appellent ce paramètre alpha. Moi, je vais utiliser ZE dans la suite de cet exposé. Et puis, probablement dans l'exposé d'Alain, ce paramètre s'appellera Z nodal lambda. Alors en fait, ça veut dire que cet objet est vu comme le produit du poids spectral Z nodal, au sens du poids spectral à une particule, fois un paramètre de Landau lambda. Donc ça, c'est le dictionnaire, disons, entre les différents articles qui traitent de ce sujet. Ces quantités sont essentiellement les mêmes. Bon, donc, disons une charge effective ZE, hein. Et puis finalement, dans la théorie effective qui régit le couplage au champ électromagnétique, il y a aussi cette fameuse rigidité de phase. Elle s'appelait KS tout à l'heure, elle s'appelle ρS maintenant, mais c'est la même. D'accord ? La rigidité de phase pour le coût d'une fluctuation de phase dans le système. Donc, ce qu'on voudrait vraiment connaître, c'est la dépendance en dopage de toutes ces quantités. Alors, on a déjà vu que celle-ci, on la connaissait assez bien. ρS est en gros, disons, proportionnel à TC, au moins sur une gamme de dopage relativement étendue, peut-être pas trop basse. ρS est en gros proportionnel à TC. Comme vous allez le voir, malheureusement, la dépendance en dopage de ces différentes quantités, elle reste encore pas certaine. Et donc, ce que je voudrais faire dans le quart d'heure qui reste, c'est vous donner les indices, ce qu'on sait et ce qu'on peut, me semble-t-il, affirmer avec une probabilité quand même non nulle de se tromper encore aujourd'hui. Bon, alors, pour faire ça, il faut donc regarder un certain nombre d'effets physiques qui découlent du couplage de ces quasi-particules nodales à différentes sondes. On voit les manifestations par différentes expériences de ces quasi-particules nodales. Bon. C'est pas génial, hein, les équations, mais enfin bon. Voilà la théorie de basse énergie de ces quasi-particules nodales. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette théorie de basse énergie? On a une partie, alors ici, psi, c'est les fermions de Dirac qui décrivent aux quatre points nodaux ces quasi-particules nodales. Donc, il y a une partie qui s'appelle L psi, ici, qui décrit tout ce qui est tout simplement l'Hamiltonien de Dirac. Hein, c'est le Lagrangien associé à l'Hamiltonien de Dirac. Pour mes quatre points nodaux, avec une relation de dispersion qui est le cône dont on parlait tout à l'heure. Hein, ça c'est très simple, c'est des fermions libres qui obéissent à ces relations de dispersion de type cône de Dirac. Il y a évidemment également une partie qui est purement la partie L phi qui régit la phase du paramètre d'ordre supraconducteur. Phi, c'est la phase du paramètre d'ordre supraconducteur. Et ça, c'est quelque chose qui fait intervenir, comme on l'a vu tout à l'heure, la densité suprafluide. Et puis, gradient phi plus c'est la substitution de Peyer, le standard, le couplage au champ électromagnétique au potentiel vecteur A. Donc ça, c'est la partie champ électromagnétique et phase dynamique de la phase du paramètre d'ordre superfluide. Et puis, il y a une partie qui décrit le couplage entre ces fermions de Dirac et ce champ électromagnétique. Et ça, c'est un couplage de type courant-courant, hein, de type courant-champ de jauge. Donc, vous avez dμ phi plus 2iemu, qui est ce terme ici, qui couple au courant de fermion de Dirac. Et c'est là qu'intervient, c'est le coefficient de ce couplage, qui est cette charge effective Z2. Donc vous voyez les différents, comment ces différents paramètres entrent ici. Vous avez la rigidité de phase qui entre dans la Hamiltonienne de la phase. Vous avez les deux vitesses qui entrent dans cette quantité, dans la dispersion de ces fermions de Dirac. Et puis vous avez la renormalisation de la charge qui entre dans le couplage de ces fermions de Dirac aux fluctuations de phase. Donc voilà la théorie de basse énergie. Et maintenant, on peut extraire un certain nombre d'effets physiques de tout ça. Alors, la première chose qu'on peut faire, qu'on peut regarder, c'est la contribution de ces quasi-particules à la thermodynamique du problème. Bien entendu, l'existence de modes d'énergie nulle va nous donner une chaleur spécifique qui n'est pas exponentielle de moins delta sur T, comme dans un supraconventionnel, mais qui va nous donner une loi de puissance. Quelle est cette loi de puissance? Vous pouvez l'obtenir assez facilement à partir de cette théorie de basse énergie. Une manière de faire, c'est d'intégrer les fermions. On voit que les fermions se couplent linéairement au champ électromagnétique. Et ils ont par ailleurs un terme quadratique. On peut intégrer sur ces fermions et en supposant qu'on a un champ électromagnétique lentement variable. Ceci vous donne une fonctionnelle d'énergie pour gradient phi moins i 2ea qui est donnée ici. Donc vous voyez que cette fonctionnelle d'énergie, elle fait intervenir, ou d'énergie libre, elle fait intervenir l'intégrale sur cette densité d'état linéaire de cette expression qui n'est autre que la fonction de partition, ou le grand potentiel plutôt, de fermion dans ce champ électromagnétique lentement variable. Voilà. Alors, une fois que vous avez cette énergie libre, vous pouvez prendre deux dérivées par rapport à la température pour trouver la chaleur spécifique. Et le résultat H en nul est celui auquel vous vous attendez, puisque vous avez une densité d'état linéaire, eh bien, vous avez un terme proportionnel à T carré dans la chaleur spécifique. Il n'y avait pas vraiment besoin de faire tout ça pour deviner ce résultat. Donc la première chose, c'est un terme en T carré dans la chaleur spécifique, qui est vu également dans les expériences, modulo évidemment tous les problèmes d'impureté. Par contre, il y a un effet plus marrant, pour lequel ces mathématiques-là sont utiles, qui s'appelle l'effet Volovic, qui a été prédit par M. Volovic, en 80, j'ai oublié la date exacte, enfin, pas tellement longtemps après la découverte des cuprates, début des années 90, je crois, qui est que si je regarde au contraire les contributions à la chaleur spécifique en champ fort, alors fort, ça veut dire plus grand que cette quantité-là, qui est en gros le quantum de flux fois Vf sur T au carré, eh bien, on va avoir une contribution additionnelle, on va retrouver, en fait, une contribution linéaire en température, qui va être proportionnelle à la racine carrée du champ magnétique. Alors ça, c'est quelque chose qui peut se comprendre par le fait que le couplage au champ magnétique décale la relation de dispersion à cause de du terme de substitution de Peyer, qui est ici, décale, fait un offset de la dispersion de ces fermions de Dirac. Et quand on regarde la contribution, donc à la chaleur spécifique des fermions ainsi décalés en présence des vortex du système, eh bien, on trouve une contribution à la chaleur spécifique qui est proportionnelle à la racine du champ. Et vous voyez que le coefficient de ce terme, donc ça c'est le champ magnétique en unité du quantum de flux, et il y a un coefficient ici qui fait intervenir la charge effective divisée par cette vitesse nodale V delta. Donc la mesure de cet effet Volovic permet de remonter à la dépendance en dopage, pour différents dopages, permet en principe de remonter à la dépendance en dopage de cette quantité. Alors la première chose, c'est de voir l'effet. Donc effectivement, cet effet a été vu expérimentalement. Voilà un exemple, je ne crois pas que ce soit le premier. Vous voyez ici, c'est l'effet induit par le champ magnétique sur le coefficient gamma, c'est-à-dire la pente C sur T de la chaleur spécifique, en fonction du champ magnétique. Vous voyez une loi qui marche assez bien avec racine de H. Et ici, c'est même plus convaincant. On a représenté delta gamma divisé par racine de H en fonction de la température. Et vous voyez que toutes ces courbes pour différents champs magnétiques collapsent les unes sur les autres pour donner une valeur qui sature à basse température. Donc c'est ça la valeur qu'on extrait. Et quand on fait ça, on peut en tirer une dépendance en dopage de ce coefficient, hein, Z sur V delta, ZE sur V delta. Donc l'information, si toutes ces expériences sont correctes et si tout ça est juste, eh bien c'est que ZE sur V delta semble s'écrouler quand on sous-dope, c'est-à-dire croître en fonction du dopage. Donc voilà une première information à partir de cet effet Volovic qui est le fait qu'un champ magnétique restaure une chaleur spécifique linéaire en température avec cette dépendance en racine de B. Voilà une première information sur la dépendance en dopage de cette combinaison de paramètres. Bon, alors c'est juste une combinaison de paramètres, donc il faut faire d'autres expériences pour trouver une autre combinaison de paramètres. Alors ça, ça existe aussi. On peut regarder également, tout à l'heure on a vu que la densité superfluide ou la rigidité de phase à température nulle croissait quand on dopait le système ou décroissait quand on sous-dopait le système. On peut maintenant s'intéresser à quelque chose d'un peu plus raffiné qui est la première correction en température à cette densité superfluide ou cette rigidité de phase. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut obtenir à partir des expressions précédentes. Hein, c'est la rigidité de phase. Donc, pour maintenant prendre deux dérivées, non plus par rapport à la température, mais par rapport à grade phi moins EA, hein, ce paramètre Q que j'avais tout à l'heure. Et quand on fait ça, eh bien, on trouve le terme de température nulle et puis une correction qui est linéaire en T. La linéarité de la correction en T reflète directement la linéarité de la densité d'état de nouveau. Donc on a une correction linéaire en T, et puis on peut calculer le coefficient, et quand on fait ce calcul, eh bien on s'aperçoit que ce coefficient il est proportionnel au carré de la charge effective, Z2, divisé fois VF, divisé par V delta. Donc en principe, le coefficient linéaire en T, qui décrit la manière dont les quasi-particules excitées, puisqu'elles sont faciles à exciter, puisqu'elles n'ont pas de gap, décroissent encore, font encore décroître la rigidité de phase par rapport à sa valeur à température nulle, eh bien, le coefficient de cet effet vous permet d'accéder cette fois au paramètre Z carré VF sur V delta. Tout à l'heure, on avait Z sur V delta, maintenant on a ça. Ça, c'est une observation qui est due à Patrick Lee et Xiao Gangwen en 1997. Alors, ces expériences ont été faites. Voilà, toujours par mesure de la profondeur de pénétration, donc voilà lambda moins 2 en fonction de la température, pour différents films d'Ibacuo. Et donc, vous voyez ici, sur ces beaux échantillons, vous voyez ici une belle linéarité à basse température. Donc ça, vous pouvez déjà considérer ça aussi comme une confirmation de la symétrie D. Donc une belle linéarité en fonction de la température. Et ce que vous voyez également, c'est que cette pente, on le devine à l'œil ici, est quasiment indépendante du dopage. Quasiment indépendante du dopage. Alors vous vous souvenez que rho S de 0 était proportionnel à Tc, donc je peux écrire ça de la manière suivante, rho S de T égale rho S de 0 proportionnel à Tc fois 1 moins Ct sur Tc. Si j'admets que ça, c'est la loi d'Uemura, est proportionnel à Tc, vous voyez que les Tc se compensent, et donc ça me dit bien que ce coefficient C est essentiellement, tel que je l'ai écrit, essentiellement indépendant du dopage. Donc il doit y avoir un collapse de toutes ces courbes à basse température dans une représentation en fonction de T sur Tc, ce qui est bien vérifié ici. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il semble que, au moins pour ces échantillons-là, ce coefficient, cette pente, le coefficient du terme linéaire en T, semble être indépendant du dopage. Et donc cette combinaison Z carré VF sur V delta. Alors en fait, comme toujours dans les cuprates, ça c'est un peu une simplification. Depuis, il y a eu des choses nouvelles qui ont été faites. Vous voyez, ça date de la fin des années 90. Depuis, on en sait un petit peu plus. En fait, il semblerait que quand on va vraiment à très bas dopage, ce qu'on est capable de faire pour mesurer ça, puisque ça nécessite des échantillons très propres, sinon on ne voit jamais ce comportement linéaire en T, ça nécessite d'excellents échantillons. Donc, en gros, il n'y a que Ibacuo tel que produit dans les beaux monocristaux de UBC qu'on peut faire ces expériences, je crois. Eh bien, en fait, quand on fait ça, on s'est aperçu que cette pente, en dessous de, je ne sais pas, disons à peu près 6%, elle n'était plus vraiment constante en fonction du dopage, mais elle se mettait également à diminuer. Donc la moralité de tout ça, c'est qu'il y a un régime de sous-dopage hein, où, pour les composés pas trop sous-dopés, peut-être jusqu'à 10%, où cette pente est constante, effectivement, et puis si on va vraiment à des dopages très bas, elle semble quand même s'effondrer. Alors ce qui est assez marrant d'ailleurs, entre parenthèses, c'est que néanmoins, la loi d'échelle en T sur TC semble être toujours correcte, ce qui veut dire que, alors, ceci implique que la loi d'Uemura n'est plus vraiment correcte, c'est-à-dire que ρS n'est plus vraiment proportionnel à TC à très bas dopage, et vous voyez, effectivement, ça c'est une mesure de HC1, donc qui est reliée à ρS, hein, qui n'est pas vraiment linéaire en température, comme vous voyez ici, mais néanmoins, la loi de puissance de la pente, de dH sur dT et de HC, sont telles que, eh bien, on continue à avoir une loi d'échelle du type ρS en ρS0, 1 moins T sur TC. Bon, donc il continue à y avoir une représentation du type, si vous voulez, ρS sur ρS0 en T sur TC avec un collapse de toutes les données les unes sur les autres, mais pas vraiment une linéarité en TC, ni du coefficient, ni de la pente. Bon, donc la moralité, pour résumer sur tout ça, c'est qu'il semblerait, à partir de ces expériences de profondeur de pénétration, que cette pente, ça nous renseigne sur ce coefficient Z carré VF sur V delta, il semblerait que ce coefficient soit constant pour une assez large gamme de sous-dopage, et puis ensuite, à très bas sous-dopage, se mettre quand même à s'effondrer vers zéro. Alors en fait, cette observation-là, elle est en connexion directe avec quelque chose dont je pense Alain va parler dans son séminaire, qui est une observation qui avait été faite dans un travail commun entre son équipe, moi-même et Gabi Cotelliard, où on avait remarqué que c'est la même physique en fait qui contrôle, c'est également ces excitations nodales, qui contrôle le comportement basse fréquence du spectre Raman dans une certaine géométrie de polarisation de la lumière, qui est la géométrie B de G, et que, effectivement, quand on regardait les données, disons, avec un certain soin, il faut normaliser ces données par une règle de somme, eh bien, la pente à basse fréquence des spectres Raman était également constante en fonction du dopage. Et en fait, vous voyez qu'il y a même cette tendance ici que, effectivement, elle est constante pour une assez large gamme de dopage, et puis à très très bas dopage, elle pourrait avoir une tendance à descendre également, comme on l'a vu pour la profondeur de pénétration. Donc cette observation-là est tout à fait analogue à l'observation faite sur une quantité différente, qui est la profondeur de pénétration. Donc, on obtient ainsi un renseignement sur Z carré VF sur V delta, et je note au passage que cette constance de ce paramètre en fonction du dopage est une très sérieuse difficulté pour les théories de type RVB, boson esclave, à toutes les théories qui sont uniformes sur la surface de Fermi, qui décrivent la suppression des quasi-particules de manière uniforme sur la surface de Fermi. En effet, qu'est-ce que ces théories nous diraient? Eh bien, elles nous diraient qu'en gros, cette charge effective ZE coïncide avec le poids des quasi-particules, tout simplement. Donc, on a déjà vu plusieurs fois qu'il était proportionnel au dopage dans ces théories-là. Et donc, vous voyez que, et puis, V delta, c'est quelque chose qui suit plutôt delta max, donc qui a plutôt tendance à augmenter quand on sous-dope. Donc, le résultat de ça, c'est que ce paramètre Z carré sur V delta, c'est quelque chose qui devrait, selon ces théories, très fortement augmenter, au moins comme, très fortement diminuer, quand on sous-dope. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit, hein, puisqu'on a vu que c'était plus ou moins constant. Hein. Donc là, il y a vraiment un problème. Et le problème qui est soulevé ici, c'est que cette description fournie par toutes ces approches est beaucoup trop uniforme sur la surface de Fermi et ne fait pas la différence entre les régions nodales et antinodales, la différence de poids spectral entre les régions nodales et les régions antinodales. Et je pense que dans son séminaire, Alain vous fournira une manière de sortir de ces difficultés-là. Mais vous voyez que ces théories RVB uniformes ne permettent pas d'expliquer ces expériences. Bon, alors je vais essayer de résumer ici un petit peu ce qu'on a appris. Et ce transparent, il faut quand même le prendre encore avec un point d'interrogation, parce que vous voyez que ça repose sur des expériences qui sont des expériences délicates. Et c'est pas sûr que ces conclusions soient vraiment correctes, mais il me semble qu'on peut quand même affirmer la chose suivante. Quand on décroît le dopage à partir du dopage optimal, on voit à partir de l'effet Volovic Z sur V delta décroît, à partir des expériences à la fois de profondeur de pénétration et de Raman, cette combinaison de paramètres est constante, et puis finalement à très bas dopage se met à avoir une tendance à décroître également. Et donc à partir de ça, on peut affirmer, alors supposons que ce paramètre décroisse en gros comme une certaine loi de puissance de TC, ce qui est ce qu'on voyait à peu près dans les expériences, et puis que j'ai pris là le régime où ce paramètre-là est constant, et bien sur la base de ça, on peut dire qu'au moins dans ce régime de dopage, à la fois la charge effective des quasi-particules, c'est-à-dire ce paramètre de couplage entre les quasi-particules nodales et le champ électromagnétique, croît quand on sous-dope, mais également la vitesse nodale croît quand on sous-dope. Donc le paramètre, la pente du gap au nœud, croît quand on sous-dope. De la même manière que la valeur du gap à une particule observée en STM ou en ARPES croît quand on sous-dope. Alors pourquoi est-ce que ça c'est important? C'est important parce que la dépendance de la vitesse nodale en fonction du dopage a une connexion directe, je vais peut-être passer sur ça pour un instant, a une connexion directe avec la question de l'existence d'une ou de deux échelles d'énergie dans la fonction de gap. Alors en effet, on a vu que le gap supra avait une symétrie de type dx de moins y2, mais il y a plusieurs harmoniques dans dx de moins y2. Il n'y a pas que cos kx moins cos ky, il y a aussi d'autres harmoniques. Donc il n'y a pas seulement un terme, un seul paramètre, delta max cos kx moins cos ky, mais il peut y avoir d'autres termes. Et la question est de savoir si il y a une seule échelle d'énergie dans ce gap supraconducteur, avec une seule dépendance en dopage, qui serait donc que le gap croît quand on sous-dope, ce qui est en soi un comportement relativement paradoxal et étrange. Ou bien si, en réalité, il y a une autre échelle d'énergie près des nœuds qui aurait le comportement opposé, qui suivrait plutôt TC, de manière plus, banale par rapport à un comportement BCS standard. Donc si on envisage des distorsions de cette forme, cos kx moins cos ky, on peut imaginer un scénario à deux échelles d'énergie pour le gap supraconducteur, où on a l'échelle d'énergie antinodale qui croîtrait quand on sous-dope et l'échelle d'énergie nodale qui décroîtrait quand on sous-dope. Alors, on vient de voir que il y a quand même un certain nombre d'indices à partir de ces expériences qu'il ne semble pas que V delta décroisse quand on sous-dope. Mais enfin, il faut quand même prendre ça, je pense, comme un indice. Entre parenthèses, incidemment, mais j'ai déjà pas mal dépassé mon temps, ce type de comportement où V delta suivrait finalement le gap antinodal quand on sous-dope est également cohérent avec les expériences de conductivité thermique. Alors, je n'ai pas beaucoup le temps d'entrer dans les détails. Kamran Benya en a un petit peu parlé dans son séminaire. Il y a une théorie de la conductivité thermique dans cet état supra qui est due à Patrick Lee en particulier, qui insiste sur le fait que dans la limite propre, eh bien, il y a une valeur universelle de ce kappa sur T qui ne dépend de rien du tout et en particulier pas de ce paramètre ZE, donc pas des renormalisations, des paramètres de Landau qui caractérisent le couplage des quasi-particules au champ, et que la conductivité thermique serait purement donnée par le rapport de la vitesse de Fermi perpendiculaire à la vitesse de Fermi nodale, à la vitesse de Fermi tangentielle, selon cette formule. Si vous achetez cette formule, eh bien, les expériences de conductivité thermique semblent effectivement en accord avec le fait que V delta augmente quand on sous-dope. Mais enfin, j'insiste quand même que sur le point suivant, qui est que dans cette fameuse figure qui montre V delta extrait des expériences de conductivité thermique, il n'y a en fait que deux points, qui sont ces points expérimentaux ici, qui sont réellement des expériences de conductivité thermique, puisque ce graphe compare à toutes sortes d'autres expériences d'Arpès en particulier, il n'y a que deux points qui sont extraits de la conductivité thermique et qui concernent le régime sous-dopé. Il y a d'autres points dans le régime dopage optimal et surdopé, mais il n'y a que deux points ici dans le régime sous-dopé. Donc là encore, ceci est à prendre quand même avec des pincettes, d'autant plus que, comme toujours, les choses sont compliquées, et cette limite propre, dans laquelle cette formule est correcte, a été fortement critiquée par le groupe d'Ando, qui prétend avoir des évidences expérimentales claires qu'on n'a pas en réalité ce comportement universel de la conductivité thermique. Donc, les expériences de conductivité thermique sont peut-être plus à prendre comme un indice qu'autre chose. Ceci étant dit, la conclusion, il y a quand même un faisceau de conclusions, me semble-t-il, qui tend à privilégier le fait que V delta pourrait effectivement croître quand on soudope. Bon. Alors, ceci m'amène essentiellement à la fin du cours d'aujourd'hui et ménage une transition tout en douceur avec le séminaire d'Alain Sacuto, puisque vous allez voir qu'effectivement, dans l'état supraconducteur, il y a, pour un certain nombre d'expériences, deux échelles d'énergie qui apparaissent. Et donc, la question est de savoir comment ces deux échelles d'énergie peuvent être expliquées et si elles sont liées à une dépendance différente en dopage du delta antinodal et du V-delta ou non. Alors ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup remis au goût du jour à l'occasion des expériences Raman que j'ai citées tout à l'heure, donc en 2006, mais qui avait un certain nombre de précurseurs dans la littérature, en particulier des expériences de réflexion d'Andreïev qui étaient menées par Guy de Cher, qui suggérait l'existence de deux échelles d'énergie et également des expériences d'optique sur PCCO menées à l'ESPCI par Ricardo Lobon et Nicole Montand, qui suggéraient également à partir de l'optique l'existence de deux échelles d'énergie dans l'état supra. Voilà, mais je crois que je vais m'arrêter là. Alors il y a deux sujets importants à mes yeux que j'ai malheureusement pas eu le temps de couvrir dans ce cours, qui sont, dans le cours d'aujourd'hui, qui sont d'une part la question de l'énergétique de la transition supra, et en particulier ce résultat très beau qui est dû à Nicole Bontin et Ricardo Lobo, que la condensation dans l'état supra est pilotée par l'énergie cinétique, à la différence d'un régime BCS où elle est pilotée par l'énergie potentielle. Donc ça, c'est un très beau résultat obtenu par conductivité optique dont je n'ai pas eu le temps de parler. Et puis il y a un autre sujet important pour la phase supra dont je n'ai pas eu le temps de parler, qui est un sujet beaucoup plus proche des matériaux, qui est qu'est-ce qu'on peut dire sur la dépendance de TC, les paramètres microscopiques des différents matériaux qui contrôlent TC, la dépendance dans le nombre de couches de plans CuO2 dans la cellule unité, la dépendance dans les hopping, la dépendance par rapport à la distance de l'oxygène apical. On sait un certain nombre de choses sur tout ça, et j'en ai pas parlé. Et je me demande, en fait, si je ne vais pas consacrer mon dernier cours à ces aspects-là, parce que c'est quand même des sujets importants qui seraient dommage de ne pas aborder du tout. Voilà, donc la conclusion du cours d'aujourd'hui, avec les précautions qui s'imposent sur l'interprétation des expériences et l'état actuel de nos connaissances, c'est que j'espère vous avoir quand même convaincu que l'état supraconducteur sous-dopé n'est pas aussi banal qu'il paraît, qu'il y a toute une série de points, de caractéristiques physiques de cette phase qui sont clairement associées avec la proximité de l'isolant de Mott, comme la faiblesse du poids spectral des quasi-particules antinodales, la réduction de la densité suprafluide et de la rigidité de phase, etc., etc. Et puis, finalement, que cette dichotomie nœud-antineux, elle persiste dans l'état sous-dopé supraconducteur. Et ça, on va très bien le voir dans la discussion des expériences Raman également. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Bon, on réserve les questions pour la séance de discussion à la fin, comme d'habitude. Eh bien, merci. On reprend donc à 15h30.